Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Colossiens chapitre 1. Nous allons relire les versets 9 et 10 qui étaient notre partage de dimanche passé et nous allons ajouter quelque chose d'autre. Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Amen. Je voudrais ce matin axer ce culte sur le verset 11. Et avant de passer au détail de ce que nous allons partager dans ce verset 11, juste rappeler que l'apôtre Paul va écrire à cette église qu'il ne connaît pas, qu'il n'a probablement pas fondé lui-même et dont il n'a jamais été le pasteur, car c'est sans doute Épaphras qui en est le pasteur, et que Paul va donner des recommandations à cette église dont il ne connaît pas les visages des gens. Alors qu'il est au fin fond d'une prison à Rome, depuis laquelle il va envoyer ou il va faire parvenir cette lettre par ses messagers personnels, par ses transporteurs, ses facteurs. Cette lettre précieuse que nous avons entre les mains aujourd'hui, elle a été écrite au fin fond d'une prison, ne l'oublions pas. Et l'apôtre Paul qui ne peut rien faire d'autre que écrire et prier. L'apôtre Paul a compris que le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de prier pour lui. Si vous n'avez rien reçu à Noël, vous pouvez toujours dire, mais le plus beau cadeau que tu peux me faire, c'est de prier pour moi. Prions les uns pour les autres. Et l'apôtre Paul a compris que la puissance de la prière est sans limite. Elle est sans limite. Une prière inspirée du Saint-Esprit, portée par la puissance et l'onction du Saint-Esprit, produira des fruits évidents, tôt ou tard. Et au verset 9, nous avons accueilli quatre bonne résolution pour 2017, car l'apôtre Paul va demander d'abord que les chrétiens soient remplis de sa connaissance, de la connaissance de la volonté de Dieu. Première chose, demandons que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Ensuite, demandons, Seigneur, merci, et disons plutôt merci pour la force que tu me donnes de faire la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, c'est ce que Paul demande dans la prière. Ensuite, il demande que les chrétiens soient remplis de sagesse et d'intelligence spirituelle, c'est-à-dire qu'ils aient du discernement, qu'ils aient une compréhension spirituelle qui vient au travers du contact avec la parole de Dieu et du Saint-Esprit, et que cette sagesse et cette connaissance spirituelle ne fassent pas de nous des victimes de philosophies de tout genre et de modes et de vagues différentes, mais que nous ayons du discernement et de la maturité. C'est ce que Paul demande. Ensuite, il demande troisièmement que les chrétiens puissent marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards. Est-ce que c'est votre désir? Est-ce que ce n'est pas une bonne résolution? Seigneur, je veux marcher avec toi, dans ta présence, côte à côte avec toi, toi avec moi, moi avec toi, bras dessus, on avance ensemble, d'une manière correcte et digne du Seigneur et de lui plaire à tout point de vue. Et ensuite, quatrièmement, il priait que les chrétiens de Colosse portent des fruits, qu'ils soient comme des arbres plantés près d'une source d'eau, greffés sur le tronc qui s'appelle le fondement en Jésus-Christ, greffés et qu'ils puissent ainsi, de manière naturelle, au travers de la vie nouvelle reçue, porter des fruits. Voilà quatre prières dont nous nous sommes entretenus dimanche passé. La volonté de Dieu, le discernement et la sagesse spirituelle, marcher d'une manière digne et porter du fruit. Et je me suis dit que pour ce matin, on pourrait peut-être juste encore ajouter un verset de plus et parler un petit peu là autour. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patient. Et c'est sur des mots, ces deux mots, persévérant et patient. persévérance et patience. Il me semble que ces deux mots-là ont résonné un peu plus fort dans mon cœur et je voudrais vous les laisser pour la nouvelle année. Persévérance et patience. Vous allez me dire, mais c'est évident, c'est toute la vie, il faut être persévérant et patient. Mais même si ces vertus sont simples, bien connues, il faut l'avouer, ce n'est pas facile à appliquer quand même. Hein. Ce n'est pas très facile à appliquer ces vertus de la persévérance et de la patience. Surtout quand le combat est long, que les changements espérés peut-être n'arrivent pas, et que vous avez prié depuis longtemps déjà et que vous ne voyez pas les choses arriver, que peut-être il y a des réponses qui tardent, des efforts que vous avez consentis mais qui ne payent pas encore. Quand une situation, vous n'arrivez pas à la maîtriser, il nous faut dans tellement de domaines de la vie de la patience et de la persévérance. Quel que soit notre âge physique ou notre nombre d'années de conversion, il nous faut toujours grandir dans la patience et la persévérance. Tout d'abord, un petit témoignage personnel. Fut un temps où, dans mon ministère, je pensais être arrivé au bout de quelque chose. Peut-être étais-je, même si vous ne me croyez pas, un peu fatigué et même irrité par certaines choses qui ne changeaient pas. Et certaines situations devenaient vraiment pesantes. Et je me suis dit, je ne continue pas comme ça. Et au fond de moi, je luttais pour ne pas me décourager. J'en ai parlé à 2-3 amis et collègues aussi, qui ne m'ont pas donné de conseils, mais ils ont prié pour moi. Et toute cette situation m'a poussé davantage dans la prière, à l'écoute du Seigneur. La pensée de quitter, ce n'était pas quitter le ministère, mais c'était quitter quelque chose, de changer, était bien là, mais en priant, je n'avais pas la paix d'aller de l'avant dans ma pensée. Quelque chose me retenait. Et puis, dans cette tension que je vivais, un mot s'est imposé en moi. Ce mot est venu dans la prière, dans la réflexion, dans mes cultes personnels, la lecture biblique. Et ce mot a été simplement celui-ci, patiente encore. Moi, j'avais le désir d'intervenir et de prendre les choses en main, pour décider quelque chose. Mais la patience veut dire, fais ce que tu as à faire, mais laisse sur ce point-là Dieu agir. Et là est le point délicat. C'est que quand on arrive au bout de quelque chose, on veut tellement intervenir qu'il y a quelque chose dans ce verset 11 de Colossiens 1 qui va nous aider à laisser Dieu agir. Et je continue mon travail. Je fais ce qu'il y a à faire et une force surnaturelle m'a été donnée. Je ne peux pas dire autre chose. Pour continuer en laissant Dieu faire. Son temps n'est pas mon temps. Et le dénouement de la situation est arrivé de manière divine et surprenante. Et d'un coup, j'ai été libéré de quelque chose en voyant de quelle manière Dieu était intervenu. Écoutez, je n'aurais jamais vu les fruits de ce qui est venu après coup, si j'avais pris ma décision de stopper quelque chose. Il y a des fruits qui viennent quand on patiente. Et ces fruits, on ne les découvre pas avant. Écoutez, ce verset magnifique m'a touché. Dans Jacques chapitre 5, il est dit ceci, « Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. » Et j'aimerais vous dire que la patience et la persévérance, je vais en parler tout à l'heure encore un peu plus en détail. La patience et la persévérance s'apprennent dans la nature. Toute la nature, qu'elle soit végétale ou animale, nous enseigne sur tous les tableaux possibles, imaginables, des leçons de patience et de persévérance. Est-ce que quelqu'un peut dire oui à ça? Nous qui sommes des citadins, pour la plupart d'entre nous, et qui manquons le contact avec la nature et la terre, nous avons un peu perdu de vue cette allégorie, ce tableau vivant de la création qui est devant nous et qui nous apprend tant et tant de choses sur la persévérance et la patience. Il y en a plusieurs parmi vous qui pourraient en faire une conférence sans problème pour parler de la patience des petits animaux, des petites bestioles, d'un oiseau, etc., etc. Écoutez, je reviens à mon verset. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, tu peux mettre Jacques 5, 7. Plein de patience à son égard. Donc le laboureur qui sait que la nature ne fonctionne pas à l'instantané, qu'elle a besoin de sa saison, de son temps, elle a besoin de tous les éléments nécessaires pour que le cycle puisse se faire correctement, il attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard. Et maintenant vient le verset qui m'a touché. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Mes amis, j'aimerais dire un peu d'une manière prophétique ce matin. Il y a des personnes ici. Vous avez déjà reçu les pluies de la première saison pour quelque chose de précis. Mais vous n'avez pas encore reçu les pluies de l'arrière-saison qui sont nécessaires pour que le fruit puisse paraître, pour que le résultat puisse venir. Et j'aimerais vous dire que pour que la pluie de l'arrière-saison vienne, parce qu'elle va venir, il faut, parce que cette pluie-là ne dépend pas de l'homme ni du laboureur, ça dépend de quelque chose qui le dépasse et qui ne maîtrise pas. C'est dans la main de Dieu tout cela. Mais de notre côté, il faut exercer la patience. Et si je n'ai pas la patience, je vais quitter un territoire où il manquera toujours la pluie de l'arrière-saison et le fruit va manquer. Le résultat n'est pas là. Quelque chose va manquer à notre vie. Mes amis, est-ce que nous voulons que nos vies en 2017 soient davantage complètes, davantage porteuses de fruits merveilleux? Il faut attendre la pluie de la première saison. Et dites-moi ensemble, et de l'arrière-saison, la deuxième pluie. Et je veux dire ce matin qu'il y aura cette pluie du Seigneur, cette grâce de Dieu, cette action surnaturelle du Saint-Esprit qui va venir en son temps, en son temps. Je suis sûr que beaucoup, vous pourriez écrire des livres entiers d'expériences où vous avez dû avoir de la patience et de la persévérance. Et ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas que théoriquement les enfants sont moins patients que des adultes. Il y a la patience à apprendre même si vous avez 60 ans de vie chrétienne. Même si vous êtes chrétien depuis longtemps, il y a encore une pluie de l'arrière-saison qui vous attend. Attendez-vous à de grandes choses de la part du Seigneur. C'est sa pluie qui va faire la différence. La première pluie, c'est les bénédictions faciles qui arrivent rapidement. Quand on a mis la semence en terre, quand on a fait quelque chose qui est juste, on est déjà béni. Et puis vient le long temps d'attente. Et il semble que la sécheresse voudrait s'installer. Il semble que ça ne bouge plus, que la semence ne germe pas malgré les semaines qui ont passé, ça ne marche pas. J'ai pourtant prié, je me suis consacré, j'ai fait tout ce qui est juste, Seigneur. Pourquoi est-ce si difficile d'attendre? Et l'attente et la patience comportent une dimension de souffrance, n'est-ce pas vrai? Comportent une dimension de souffrance. Et là, à un moment donné, après des semaines de sécheresse, viennent les nuages de la pluie de l'arrière-saison qui font toute la différence et ça va germer d'un coup. Dans les pays du Sahel, ceux qui viennent des pays du Sahel peuvent nous le confirmer. Eh bien, la terre est sèche, 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 c'est que de la poudre, c'est que de la poussière. Mais ils arrivent une seule pluie et le pays devient vert en très peu de temps. Devenez puissants à tous égards par sa force, en sorte que vous soyez persévérants et patients. J'aimerais pas faire une étude détaillée sur ces deux mots parce que on peut finalement quand même un peu les mélanger. Persévérer. Si on prend le texte depuis son étymologie, depuis le grec, veut dire simplement avoir une longue patience, macro-tuméo, veut dire macro, c'est quelque chose qui est grand, qui est long. Tumos veut dire la passion, la colère, c'est-à-dire quelqu'un qui peut supporter longtemps quelque chose de dur, de difficile. C'est persévérer, c'est supporter longtemps quelque chose de pénible, parfois des offenses, parfois des colères. C'est rester sous un fardeau sans craquer, sans perdre courage, persévérer. Patience, c'est plutôt l'idée de la constance, de la fermeté, de l'endurance, où on demeure en place sans s'échapper, on demeure sans se casser, sans partir. Dans les épreuves, les peines, on maintient sa foi en Christ, on endure, on supporte et on est capable d'attendre longtemps. Mes amis, ces vertus-là, la patience et la persévérance, doivent être apprises. Cela ne nous est pas donné comme ça. Elles doivent être apprises. Est-ce que les enfants qui viennent au monde ont est-elle, est-ce que ces enfants ont de la patience innée depuis la naissance? Au contraire, l'enfant a besoin d'être rassuré et il a besoin de crier à tout moment pour que maman et papa viennent à son secours tout de suite, à toute heure de la journée ou de la nuit. Et ainsi, l'enfant devient un peu tout puissant à la maison. C'est lui qui est maître à bord. Parce qu'il comprend très vite, à son petit âge, qu'il manipule, qu'il contrôle les choses. Parce qu'il suffit de faire des petits bruits et de manifester pour que tout le monde vienne à son service. Ça, c'est le principe du plaisir. Il ne faut pas que les chrétiens fonctionnent comme ça. Nous ne fonctionnons pas sur le principe du plaisir. Mais passé son troisième anniversaire, il apprend tout à coup que même si maman ne vient pas tout de suite à son secours, ne vole pas tout de suite vers lui, il ne se sent quand même pas oublié ou rejeté, alors qu'avant c'était le cas. Donc il va intégrer peu à peu, tout petit déjà, la patience. Je l'ai dit, la patience est une épreuve. C'est l'épreuve quand il faut persévérer, quand on ne trouve pas. Et j'aimerais le dire aussi ce matin à ceux qui sont en recherche de travail. Ne perdez pas courage. Nous voulons croire et prier que le Seigneur a quelque chose pour vous, que vous avez une utilité dans ce monde du travail, ce monde économique, ce monde qui peut-être vous fait sentir qu'on n'a pas besoin de vous, il n'y a pas de place pour vous, qu'on n'a pas besoin de vos compétences, de vos qualités, de vos dons. Si Dieu a vu des dons extraordinaires en vous et que vous êtes en train de les mettre en application, vous faites tout ce qui est possible, j'aimerais vous dire que Dieu va vous ouvrir une porte aussi. Mais commencez quelque part. J'aime le dire aussi à ceux qui cherchent du travail. Commence quelque part. Prends ce qu'il y a à prendre et puis là, grandis et fais tes preuves et fais-toi remarquer par ton bon caractère, par ta bonne manière d'agir et de te comporter et on va te repérer. Il y a des gens dans cette salle qui ont commencé tout petit et qui sont aujourd'hui des gérants, qui sont aujourd'hui des fondés de pouvoir, qui sont aujourd'hui des managers, etc. Ils ont commencé en bas. Ils ont commencé. Je connais quelqu'un qui a commencé par distribuer le courrier à la banque dans les boîtes aux lettres et il a fini fondé de pouvoir. Il a commencé tout petit. Soyons courageux, frères et sœurs, en 2017 et faisons quelque chose et le Seigneur nous guidera. La patience est une épreuve, celle de supporter les circonstances contraires. Et tout en gardant les convictions quand même, lorsqu'on est déstabilisé, lorsqu'on est tenté de saisir quelque chose qui semble intéressant et facile à avoir. Mes amis, écoutons notre conscience, écoutons le Saint-Esprit en nous qui nous dit « garde le cap, ne trahis pas ta conscience, n'outrepasse pas la volonté de Dieu, ne va pas trop vite. » Bien sûr, il faut prendre des risques à certains moments, mais il faut garder ses convictions. La patience est une épreuve lorsqu'on veut aimer. Et lorsqu'il n'y a pas de retour, on continue à aimer quand même. C'est de poursuivre sa mission même si personne ne se convertit. Quand on a prié beaucoup et qu'il semble qu'il n'y ait pas de résultat. C'est une épreuve pour tout serviteur de Dieu. Car l'apôtre Paul va se définir en disant, « Mais voilà, les résultats et les signes de mon apostolat, c'est une patience à toute épreuve. Une patience dans beaucoup de tribulations, va-t-il dire dans 2 Corinthiens 6, 4. Je me souviens, lorsque nous étions en Corse, au bout de 3 ans de travail avec le pasteur qui nous avait demandé de venir, au bout de 3 ans, nous avons vu que 3 baptêmes. J'aurais aimé voir plus que cela. Première année, pas de baptême, 0. Deuxième année, 0 baptême. Troisième année, vers la fin de notre parcours, il y a eu 3 baptêmes. William Carey, grand missionnaire en Inde, qui a écrit le livre « Champion de Dieu » pour ceux qui aiment les récits missionnaires, lisez ce livre. Il nous dit qu'il a mis 7 ans avant d'avoir la première conversion d'un hindou. 7 ans de travail, de prière, de consécration. Il avait tout quitté pour donner sa vie pour l'Inde et il a mis 7 ans avant d'avoir un premier résultat. Frères et sœurs, la patience, la persévérance. Après, les portes se sont ouvertes et William Carey est un des grands missionnaires connus aujourd'hui encore. Nous sommes dans le siècle de l'instantané. Il faut le rappeler, l'ère numérique. Les informations circulent à toute vitesse. La vitesse de la lumière, la rapidité est importante pour tous les échanges financiers, économiques et commerciaux, etc. Je me souviens, lorsque j'étais encore à l'université, c'était en 1970 et quelques, 74, je me souviens avoir vu le premier ordinateur. Et on nous a montré, on nous a fait entrer dans une pièce, il y avait une pièce entière où il y avait l'ordinateur dans les années qui était construit dans les années 60. Et c'était une pièce de musée déjà à l'époque. Mais alors, c'était quelque chose, c'était une bête, un monstre qui était incroyablement puissant et il n'y avait pas encore les transistors et les diodes et tout ça en silicone comme aujourd'hui. Il y avait les lampes à l'époque encore, pour ceux qui ont connu cette époque-là. Eh bien, et lorsqu'on poussait sur un bouton, eh bien, ça clignotait de partout et il calculait longtemps pour trouver une réponse simple. Mais aujourd'hui, plus personne ne voudrait travailler comme ça. Personne ne veut plus acheter un ordinateur d'il y a 10 ans parce qu'il est trop lent. Trop lent, tout est trop lent aujourd'hui, il faut que ça aille vite. Je ne veux pas rester devant un écran blanc et il faut que les réponses arrivent, il faut que mes informations arrivent tout de suite. Selon le psychiatre Jean Cottreau, nous vivons dans la culture de l'impulsivité, de la génération zapping, qui ne met plus de distance entre le désir et la satisfaction immédiate. Pour preuve, la dernière publicité pour Internet, « Je ne supporte plus d'attendre, surtout sur Internet ». C'était pour une publicité de haut débit, 4G ou 5G, je ne sais plus. Et frères et sœurs, ce goût de l'instantané, ce goût de l'immédiat a envahi notre vie spirituelle. Que vous le veuillez ou pas, ce sont des pressions de notre monde d'aujourd'hui où cette dimension de la rapidité et de l'instantané font une pression sur les chrétiens qui sont à l'école, non pas de ce siècle présent, le 21e, mais qui sont à l'école de Dieu, qui a d'autres principes, où il faut apprendre la patience et la persévérance. Et certains chrétiens croient que Dieu est le Dieu de l'instantané. Si Dieu ne me répond pas tout de suite à ma question, il faut que je téléphone à un prophète pour qu'il prie pour moi et me donne une parole. Mais pas plus tard que le 31 décembre, je reçois un message des contacts que j'ai en Afrique, et il dit « Pasteur, est-ce que vous avez une parole pour l'année 2017 pour moi ?» Quelqu'un que je n'ai jamais vu, qui habite je ne sais pas où, mais il avait besoin qu'un pasteur lui donne une parole pour la journée, pour son année. Alors je lui ai répondu « La parole pour toi, elle est vieille, de 2000 ans, elle se trouve dans ta Bible, cherche le royaume de Dieu et sa justice et tu recevras toutes choses par-dessus, sois stable, sois fidèle. » Fais ce qu'il y a à faire, sers le Seigneur, aime-le de tout ton cœur, sers ton prochain. Des choses simples. Pourquoi être déstabilisé lorsqu'on n'a pas, justement, dans ce monde de l'instantané, cette parole qu'on voudrait avoir et on cherche des dons de révélation à droite, à gauche. Je suis pour les dons de révélation et l'Église en a besoin. Mais ne cherchons pas, justement, ne courons pas après ces choses juste parce qu'on est déstabilisé quand Dieu semble ne pas nous répondre tout de suite. Si je ne suis pas guéri tout de suite après qu'on ait prié pour moi, je me pose 1000 questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourtant, les promesses sont là. Pourquoi ça ne marche pas? Je suis déstabilisé. Si je ne ressens plus la présence de Dieu, c'est qu'on m'a jeté un sort. Il y a des gens qui pensent ça. Priez pour moi, pasteur, parce qu'on m'a jeté un sort. Ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Tu dois faire partir ce sort. Tu dois rompre cette malédiction sur ma vie. On utilise les pasteurs pour que le problème soit sur leur dos, parce qu'eux doivent avoir l'autorité, la puissance, pour m'enlever. C'est le monde de l'instantané, où certaines personnes chrétiennes ont des idées vraiment complètement anti-bibliques, complètement. Si les autres sont touchés par la présence de Dieu et pas moi, c'est que sûrement il y a un gros problème dans ma vie. Si ma prière n'est pas exaucée, c'est que Dieu a changé d'avis. Frères et sœurs, nous sommes touchés, beaucoup d'entre nous, par le monde de l'instantané. Le monde de l'impulsivité, du zapping. Et beaucoup de chrétiens sont déstabilisés. Frères et sœurs, soyons confiants. En 2017, Dieu fera concourir toutes choses à votre bien. Alléluia. Dieu fera concourir toutes choses à votre bien. Soyez patients et persévérants. Nous ne sommes pas des enfants, frères et sœurs. Nous sommes appelés à grandir en maturité en 2017. Soyons pas comme des enfants qui pleurnichent pour un oui, pour un non, pour que maman arrive tout de suite. Soyons matures, regardez encore ce verset de Jacques qui a beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Sachant que l'épreuve de votre foi, chapitre 1, verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais écoutez bien, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Nous sommes à l'école de la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Déjà du temps de l'apôtre Jacques, c'était pas facile d'être patient. Ça n'a jamais été facile pour personne. Mais il nous faut être patient et il faut que la patience fasse parfaitement son travail, pour que vous soyez parfaits et accomplis. Ça veut dire pour que vous puissiez être des gens matures. Est-ce que nous voulons grandir en maturité en 2017? Alors laissez la patience faire son travail et acceptons l'école de Dieu. Le verset 11 sur lequel nous sommes en train de méditer commence en réalité de cette manière-là. Il y a différentes traductions. Dans ma traduction, c'est « devenez puissant à tous égards ». Mais en réalité, le texte dit ceci, « fortifiez en toute force selon la puissance de sa gloire ». C'est le même mot, « fortifiez », c'est le mot « force », « dynamis », par sa force, « dynamis ». Soyez fort par sa force. Ça veut dire, la clé est là, frères et sœurs. La clé, c'est que nous avons besoin, pour persévérer, pour être patient, nous avons besoin de sa force, de sa dynamique, de sa force, dynamisme, fortifié par sa force et par sa puissance glorieuse. C'est au travers de sa force que je peux continuer à être persévérant et que je peux encore patienter ce matin. Écoutez, les psaumes sont remplis de cela. « Ô Éternel, tu es ma force », par exemple, il dira. « Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens à mon secours ». Psaume 118, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges ». Ésaïe 40, « Il donne la force à celui qui est fatigué ». Recevez ce matin, recevez la force de sa force. Fortifiez-vous dans sa force et sa puissance. Saisissez la force du Seigneur. Saisissez la force du Seigneur. Laissez-vous imbiber, laissez-vous habiter. Saisissez la force qui vient. On n'a rien à voir avec ce slogan d'un film très connu, « La force est en toi » ou bien quelque chose comme ça, non ? C'est quoi encore ce slogan ? « Que ta force soit avec toi », c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous connaissez mieux les films que moi. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. On ne parle pas de ces forces bizarroïdes, cosmiques et initiées. Parlons de la force du Saint-Esprit, du Dieu vivant, celui qui nous aime et qui nous communique sa force. Recevez ce matin sa force, puisez dans sa force, saisissez-la et soyez remplis de cette force pour être patient et persévérant. La force nous est promise, sa divine force, nous dit encore le texte, sa divine puissance, parce que force et puissance, parfois c'est traduit avec le même mot, Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété. Tout ce qui est nécessaire. Et dans ce tout ce qui est nécessaire, il y a aussi la patience et la persévérance qui sont dedans, comprises dedans. Tout ce qui est nécessaire pour faire sa volonté t'a été donné par sa force. Pourquoi est-ce que je peux être patient? Parce que Dieu est patient avec moi. Alléluia! Dieu a été patient avec toi en 2016. Regardez encore ces textes. Le Seigneur use de patience, nous dit le texte, envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur est patient. Il a été patient. Réfléchissez à votre vie. Combien de fois il a été patient avec vous? Combien de fois il a été patient avec moi? Et sur base de cette patience, eh bien moi aussi j'apprends la patience. J'apprends de lui. Il est patient avec moi, je vais être patient avec les autres. Si tu es impatient et tu manques de persévérance, pense à la persévérance de Dieu envers toi, pense à la patience de Dieu envers ta vie et fais le rapport. Je vais être patient avec les autres aussi parce que Dieu est patient avec moi. 1 Timothée 1,15 nous dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur dont je suis le premier. Mais, ajoute l'apôtre Paul, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier. Toute sa patience ou sa longanimité et que je serve d'exemple. Votre vie est un témoignage vivant de la patience de Dieu. Ma vie est un témoignage de la longanimité, de la patience, de la grande patience du Seigneur et de sa persévérance. Je veux servir d'exemple pour d'autres et je veux être un exemple pour les autres à ce niveau. Donc j'apprends du Seigneur lui-même. Alléluia. L'Écriture aussi nous encourage la patience. Regardez dans Romains 15, verset 4, Romains 15, 4, où il nous dit ceci. La patience et la consolation nous sont données par l'Écriture afin que nous puissions posséder l'espérance. Romains 15, 4. La patience et la consolation sont données par l'Écriture. Frères et sœurs, est-ce que nous lisons notre Bible? Est-ce que nous la lisons pour aussi apprendre comment d'autres, bien avant nous, ont passé par des chemins qui ont dû leur faire comprendre combien il fallait être patient et persévérant. L'apôtre Jacques, encore une fois, va nous dire « Souvenez-vous de la patience de Job. » Job est pris comme un exemple d'homme patient. Il nous est dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Il est question d'Abraham et sa patience pour attendre la promesse. La patience de Joseph qui a été vendu, qui a été en prison, qui a été oublié, jusqu'à ce qu'il émerge des années après. La patience. La patience d'Élie qui va prier cette fois jusqu'à ce que la pluie arrive. La patience de David qui a dû supporter si longtemps les coups de son beau-père et roi, Saül. Des années durant, il a dû fuir. Patience, patience et persévérance, sans perdre l'onction, sans perdre l'appel. La patience de Jésus également, qui sur la croix a regardé le but. Et j'aimerais encore juste mentionner ça. L'Écriture mentionne tout cela. Et je termine ce message par trois petites considérations qui vont nous aider à persévérer en 2017 et à être patients. Oui, sur base de l'exemple du Seigneur lui-même, sur base de l'exemple de l'Écriture et des nombreux témoins avant nous qui ont manifesté et vécu la persévérance et la patience. Pour grandir dans la patience, il y a trois mots qui me reviennent. D'abord, il faut aimer, car l'amour est patient. 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. Celui qui aime est patient. Le premier commandement, tu aimeras. Bien sûr, j'ai envie d'être aimé, mais la parole de Dieu dit « tu aimeras ». C'est d'abord vers l'autre. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et si tu aimes, tu passeras obligatoirement par l'école de la patience. Si tu refuses d'aimer, tu n'apprends pas au travers de la patience. Mais si tu vas dans le chemin de l'obéissance à la parole qui dit « aime ton Dieu, aime ton prochain », tu vas passer par l'école de la patience. Ce matin, est-ce que nous choisissons d'aimer ? Certainement. Que je trouve au milieu de nous tout le monde qui va dire « Oui, moi je veux aimer, je choisis d'aimer, je choisis d'obéir à ce premier commandement. » Alors tu vas apprendre dans ce chemin de l'amour aussi la patience. Persévérer dans l'amour fraternel, nous dit encore la parole. Car l'amour pardonne tout, espère tout, croit tout et supporte tout. L'amour est toujours un chemin de patience et de persévérance. Deuxième mot, donc le mot c'est « aimer », ensuite le mot c'est « espérer. Regardez, pour patienter, pour persévérer, nous devons avoir les regards sur l'objectif final. Je le redis, pour patienter, pour augmenter notre patience, pour grandir dans la persévérance, nous devons toujours avoir les yeux fixés sur l'objectif final. Quelques textes pour cela. 2 Timothée 2,10. Je supporte tout à cause des élus, dira l'apôtre Paul à Timothée. Je supporte, ça veut dire, c'est le même mot encore, hupomeno, qui veut dire je patiente, je persévère. Je supporte tout. Qu'est-ce que ça voulait dire tout ? Tout, c'est tout. Afin que eux obtiennent aussi le salut en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Ça veut dire que si vous avez dans l'objectif la gloire à venir, le salut à venir, le retour de Jésus, les récompenses éternelles, si vous avez ça dans l'objectif, alors vous aurez la force pour persévérer. Alors vous allez venir auprès du Seigneur dire « Seigneur, fortifie-moi par ta force pour que je persévère encore. » Car au bout du compte, il y aura la récompense. Au bout du compte, il y aura la gloire. Au bout du compte, il y aura les récompenses et les résultats éternels que personne ne pourra m'enlever. Au bout du compte, il y a le but. Il y a le but. Jacques dit encore, Jacques 5, verset 7. « Soyez patients, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Donc l'objectif, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il faut être patient. Quand vous perdez de vue le but, vous allez vous décourager. Ce matin, j'aimerais que personne ne se décourage, mais que nous puissions tous rediriger nos regards vers le but. Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire son retour. C'est marqué là-dessus, son retour. « Vous serez haïs de tous, dira Jésus. » À cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est ça le but, la fin c'est le but, jusqu'à la fin c'est celui-là qui sera sauvé. Le but c'est la fin, l'avènement du Seigneur, la gloire éternelle. Si nous persévérons, alors nous régnerons avec lui. Vous trouvez plein de passages où l'apôtre Paul et Jésus lui-même nous orientent vers l'objectif final. Frères et sœurs, en 2017, nous vivons jour après jour dans nos activités, dans notre travail, avec le regard intérieur tourné vers l'objectif final, tourné vers la cible finale, tourné vers ce que Dieu a préparé pour nous, qui n'est pas encore là. Nous ne sommes pas dans l'instantané, c'est à venir. Et parce que nous savons que c'est vrai, que tout ce qu'il a promis est vrai, c'est oui et amen, à cause de ça, j'aurai la force en 2017 pour persévérer et pour patienter encore. Et mon dernier point, c'est qu'il faut aimer, oui. Il faut espérer, oui. Mais nous devons aussi accepter l'épreuve. Quelques textes. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Jacques encore, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Romains 12, 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir. Nous devons accepter l'épreuve. Ce n'est pas possible de grandir en patience et en persévérance si on n'est pas éprouvé. Acceptons les épreuves qui viennent comme une école nécessaire pour chacun de nous. Amen.